Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur BPM, il est 9h03, bienvenue dans notre émission spéciale Les Rendez-vous du Mantois que nous vous proposons chaque semaine le vendredi, normalement à 8h, mais aujourd'hui petit souci technique, donc 9h en direct. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Martin-la-Garenne et nous sommes reçus par le maire Stéphane Champagne. Monsieur Champagne, bonjour.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici dans la salle du conseil de Saint-Martin-la-Garenne. Et je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, meilleurs vœux pour BPM et vos auditeurs.
Et bien, tous nos vœux également à vous et ainsi qu'à l'ensemble des habitants de Saint-Martin-la-Garenne. Alors avec vous, nous parlerons de l'impact de la situation sanitaire pour la commune, notamment concernant les écoles, vraiment sujet d'actualité. Nous reviendrons sur l'inauguration des houseboats en décembre au port de Lillon. Et puis nous détaillerons les futurs projets qui concernent Saint-Martin. Saint-Martin-la-Garenne. Alors on commence donc par la crise sanitaire. Après 2 semaines de reprise, quelle est la situation dans les écoles? Comment les enseignants ont-ils appréhendé le nouveau protocole sanitaire? Et on parle de ceci au lendemain de cette grève nationale.
Alors vous parlez du protocole sanitaire, je parlerai des protocoles sanitaires puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'on en a vu pas moins de 3 cette semaine.
Quelques-uns, oui.
Donc les enseignants sont légitimement un peu perdus puisque on vous annonce déjà le protocole suivant que vous n'avez pas encore reçu le premier dans votre école. Donc les enseignants font le maximum. On n'a pas trop de répercussions actuellement sur l'école, donc tout se passe plutôt bien. On a eu des gros soucis au mois de décembre puisqu'on a eu l'école fermée entièrement, donc les 4 classes de l'école, pendant une semaine suite à de nombreux cas de Covid. Donc les choses vont un peu mieux. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, le problème c'est qu'il faut clarifier la situation et que les gens peuvent pas, enfin ça devient totalement illisible quoi, 3 protocoles dans la semaine, c'est pas possible.
Alors les revendications des enseignants portent notamment sur la fourniture de masques, de détecteurs de CO2, et ça, vous n'avez pas attendu leur demande pour en équiper l'école.
Absolument, donc j'en profite pour remercier mon adjointe aux affaires scolaires qui avait très largement anticipé puisque nous avions les détecteurs de CO2 dès la rentrée du mois de septembre sur notre école et on va être équipé pour notre centre de loisirs, ce qui aujourd'hui n'est pas une obligation mais qui nous semblait plutôt nécessaire, et je vois pas bien pourquoi une situation serait dangereuse à l'école et pas au centre de loisirs.
Alors cet investissement, vous l'avez fait, toutes les communes ne l'ont pas encore fait, ça représente un gros investissement pour une commune comme la vôtre ?
Non, c'est pas un gros investissement, d'autant plus que on parle de la santé des habitants et de la santé des enfants, et notre rôle d'élu, c'est vraiment d'accompagner les administrés. Aujourd'hui, s'il y a un risque, voilà, donc effectivement, ça génère des coûts. Si on doit faire des économies, ça sera pas là-dessus.
Ça, c'est important de le préciser. On va rester toujours sur ce chapitre de la Covid-19 qui décidément nous pourrit la vie depuis 2 ans. Alors justement, à quel point la situation est-elle difficile pour une commune comme la vôtre? Comment est-ce que vous gérez la situation au quotidien, les arrêts de travail, les manifestations annulées, etc.?
Alors, bien les vœux du maire ont été annulés cette année, ainsi que bon nombre de manifestations. Donc, pour la mairie, pour les associations, le comité des fêtes, ça a été très difficile pour tous les gens qui font vivre un peu la commune. Je pense surtout, on a parlé des enfants, et bien évidemment, c'est un vecteur de ce virus. Je pense surtout aux aînés. Particulièrement aux aînés, et il est vrai que dès le début de cette crise sanitaire, dès le confinement, nous avons été parmi les premières communes d'ailleurs à faire fabriquer des masques et à les distribuer à la population. On a fait aussi des distributions de colis alimentaires pendant le confinement pour les personnes âgées. Je pense que c'est vraiment une population. On a parlé au niveau national aussi des étudiants, parfois, qui étaient un peu les oubliés, mais les étudiants qui avaient perdu leur petit job d'appoint qui leur permettait de survivre, etc. On a certaines populations qui sont particulièrement ciblées, et en particulier les aînés, parce que dans cette crise, le pire actuel et à venir, c'est vraiment le lien social. Et je pense à tous les aînés qu'on protège dans les familles, où les petits-enfants voient de moins en moins les grands-parents parce qu'il y a toujours un risque, etc. Où on a vu pas mal de personnes isolées, oui. Donc on a essayé pendant le confinement d'appeler un peu les personnes. Donc on a pris les listings, on a appelé un par un les personnes de plus de 70 ans. On a fait cette distribution dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Et vraiment, c'est à eux que je pense, parce que cette crise qui suit, pas encore, on est encore une crise sanitaire, mais c'est vraiment une crise sociale. Et je pense que ça, on n'en a pas encore mesuré tous les impacts.
Donc vous allez continuer, si j'entends bien, d'accompagner justement ces populations plus fragiles au-delà de cette crise.
Oui, et le drame de tout ça, c'est justement que on fait les choses au coup par coup, puisque, bon, on parlait des protocoles tout à l'heure, mais chaque jour, vous avez une information différente, et chaque jour nécessite une adaptation. Vous parliez du personnel municipal, et du personnel de toutes les entreprises en général, du télétravail, de nouveaux modes de fonctionnement, et chaque jour, on essaie de s'adapter, donc avec peu de recul et d'anticipation, mais chaque jour on a une règle nouvelle, quoi.
Il faut inventer et se réinventer sans cesse, hein, avec cette crise. On passe à présent aux dernières nouveautés qui sont arrivées à Saint-Martin-la-Garenne. Alors, il y a quelques mois, la fibre était installée. C'était très attendu, notamment dans ce contexte Covid, de télétravail, etc. Alors, quels sont les premiers retours des utilisateurs ?
Absolument. Alors, de très bons retours pour les premiers utilisateurs. Donc je voudrais revenir justement là-dessus. On a la commune de Saint-Martin est déployée aujourd'hui à 95%.
Oui.
Et on est à un taux de raccordement de 40%. Sur le taux national, on doit être à 47%, donc un peu en dessous du national. Mais les choses se font petit à petit. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, on a réussi à déployer 95% de la fibre. Je voudrais maintenant, et en 2022, m'intéresser aux 5% restants. Parce qu'en tant qu'élu, il y a quelque chose qui me choque particulièrement, c'est l'inégalité entre les citoyens. Donc, alors c'est des problèmes qui sont à la marge, où souvent on a les opérateurs qui se renvoient la balle, ou une institution, un opérateur, ça peut être un bout de trottoir à casser, un fourreau qui a été écrasé, et là l'opérateur arrive et vous dit « bah non, je peux pas ».
Et alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous allez faire du cas par cas ?
Eh ben à notre niveau, sur ces 5%, on va essayer d'analyser le problème, de détecter les cas qui peuvent poser problème, de savoir d'où vient le problème, de trouver éventuellement le bon opérateur. Et puis, je pense que dans certains cas à la marge, on sera peut-être obligé de faire le travail pour d'autres. Voilà. Mais partout, ça sera nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de 95%.
Et ces 5%, pour se rendre compte, ça représente combien de foyers à peu près?
On a 450 foyers sur la commune, donc 5%, ça fait pas grand-chose.
4 fois 5, 20, ça fait voilà. une vingtaine, donc ça reste quand vingtaine. Même raisonnable
c'est ça,
à gérer.
Ça reste tout à fait raisonnable. Alors après, ça dépend du problème et ça dépend de la longueur, du linéaire du problème, puisque ça peut être casser, refaire un bout de trottoir. Je cite cet exemple parce que, par exemple, tout bêtement, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect que ça, la voirie, ça n'est plus dans la compétence de la commune. Donc, si j'ai un administré qui est bloqué pour un bout de trottoir de 5 mètres à casser, il faut qu'on le finance, ça peut encore se faire. Mmh. Deux, il faut qu'on ait l'autorisation de le faire ou qu'on puisse le faire par la communauté urbaine, etc. Enfin voilà, ça pose... pour des fois 5 mètres linéaires, ça peut poser des problèmes bien compliqués d'un point de vue administratif et prendre un peu de temps.
En tout cas, c'est un dossier là aussi que vous suivez de près pour ne laisser personne sur le bord de la route. Alors, autre nouveauté, le mois dernier, il y a eu l'inauguration des houseboats de l'entreprise L'Escale Royale au port de Lillon. Alors, houseboat, traduction littérale, hein, maison bateau. Alors, en quoi ça consiste ces houseboats justement ?
Alors, ces houseboats, ce sont donc des bateaux, des hébergements insolites, situés sur le port de Lillon. Je voudrais juste parler du port de Lillon très rapidement, puisque vous m'en donnez l'occasion. Donc, le port de Lillon, c'est un port communal, actuellement géré en délégation de services publics. On y a fait quelques investissements ces dernières années, et pas des moindres. Donc, on a rajouté un ponton pour les bateaux de 40 mètres, un ponton de 20 anneaux qui porte à 200 le nombre d'anneaux sur notre port. Et ensuite, nous avons fait l'assainissement non collectif. pour permettre d'avoir un port propre, ce qui nous a valu en 2021 d'être labellisé Pavillon Bleu. Un label vraiment très sérieux, et c'est pour cela aussi que quand cette entreprise a proposé ses produits sur le port, on a rencontré cette entreprise. Donc il s'agit de jeunes gens très dynamiques et qui avaient à cœur de proposer des circuits courts pour les solutions de restauration pour leurs clients, de l'embauche locale. Et au bout d'une demi-heure de discussion, on s'est aperçu qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le développement durable. Voilà, puisque je rappelle qu'on est en zone Natura 2000, dans le parc naturel du Vexin, et que ce port, si vous le comparez à Port-Cergy par exemple, on est sur une touche un petit peu plus rurale. Je fais la comparaison entre les deux parce que la délégation de service public, donc notre délégataire est le même que Port-Cergy. Et dans leur palette d'offres, ils ont ces deux offres un peu différentes où vous avez un port un peu plus, on va dire urbain, et ici un port un peu plus rural. Donc effectivement, c'est du développement économique, mais en restant dans l'esprit de ruralité qui est plutôt notre marque de fabrique ici à Saint-Martin-la-Garenne.
Alors, qu'en attendez-vous justement de ces houseboats, de ces gens qui vont venir passer des nuitées sur la commune, qui visitent un peu plus la commune, faire découvrir encore un peu plus la commune ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est l'occasion de faire découvrir la commune.
De consommer local.
De consommer local. On a deux restaurants.
Il y a des bons restos, hein, c'est ça.
Il y a deux très bons restos sur la commune. D'ailleurs, je vous les conseille. Il y en a un à Sandrancourt, donc l'Île d'Aristée, et un à Saint-Martin-la-Garenne, le Bar à Table, qui a ouvert cette année. Donc, deux restaurants très intéressants. J'en profite pour faire la publicité à votre micro aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais voilà. En tout cas.
La publicité est gratuite ce matin sur le PM. Allez, on va passer, on va rester un peu sur l'environnement. C'est la tuile qui vous est tombée sur le coin de la figure, si je peux me permettre ce terme un peu trivial, au mois de novembre. Parce qu'on a découvert un polluant dans des terres issues des travaux du prolongement du RER E et du Grand Paris Express, donc dans la carrière Lafarge. 240 000 tonnes de déchets contaminés qui vont devoir être évacués. Est-ce que cette situation inquiète vos administrés ? Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Et qu'est-ce qui va être fait maintenant ?
Alors, cette situation a inquiété les administrés et nous a inquiétés en premier lieu, puisque forcément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser là et qui fait un petit peu peur. L'avantage, c'est que Lafarge est sur la commune historiquement depuis plusieurs décennies, qu'on travaille avec eux en parfaite transparence et qu'à aucun moment ils ont essayé de cacher la poussière sous le tapis, si je puis dire. Donc effectivement, on parle de 240 000 tonnes. Alors, je voudrais juste faire quelques petits rappels pour rassurer un peu. Donc ce polluant, c'est pas un polluant humain. On est sur la pyrite, qui est un élément naturellement présent dans le sol.
La pyrite de fer, c'est ça ?
C'est ça. Ouais. Sauf que quand il est excavé, il s'oxyde à l'air et dégage des sulfates, etc. Donc on n'est pas sur une pollution humaine, déjà premier point. On est sur 240 000 tonnes, je vous confirme le chiffre. Donc les mesures ont été prises très rapidement en concertation avec la préfecture. On a été informé régulièrement et on suit régulièrement ce dossier.
Et quelles sont les mesures justement ?
Alors les mesures, donc on a déjà commencé, donc c'est toutes ces 240 000 tonnes vont être retirées du site. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on doit être à pas loin de 25% de matière retirée. Voilà, donc depuis début novembre, on est à 3 bateaux par semaine qui quittent la commune pour emmener ces terres. Donc à 25% retirées, et puis pour la matière qui reste sur place, c'est une matière qui a déjà été stabilisée, donc techniquement avec une couche d'argile, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, les volumes de matière qui restent sur place sont stabilisés et l'enlèvement de ces matières continue et se poursuit chaque semaine, et on y veille chaque semaine avec Lafarge.
Puis à ce rythme-là, on peut espérer qu'au printemps, la situation soit pleinement résolue.
Vous m'autoriserez à me dérober et à ne pas vous donner de délai, c'est l'expérience qui parle et je ne préfère pas m'avancer là-dessus. En tout cas, je sais que ça continue.
Pas que nous.
Voilà. Par contre, les matières sont enlevées à rythme soutenu, je vous dis à raison de 3 bateaux par semaine. Voilà. Après, je ne m'aventurerai pas à vous donner un délai.
Alors on va passer maintenant aux aménagements à venir dans la commune. Il y a d'abord un projet de bâtiment multifonction qui devrait sortir de terre au mois d'avril. Alors qu'est-ce qui se passera dans ce bâtiment multifonction? Qu'est-ce que vous en attendez de ce bâtiment?
Alors, ce bâtiment, c'est le terme multifonction qui m'amusait parce que je le trouve pas très beau, mais veuillez m'en excuser. Non, ce bâtiment, plus sérieusement. Donc, on a grandi le local technique parce qu'on avait des besoins pour nos agents, pour ranger leur matériel, etc. On a une deuxième partie qui est un local de stockage associatif, puisqu'on a des associations nombreuses et très efficaces sur la commune, dont le comité des fêtes par exemple, mmh. et qui avait elle aussi besoin de place. Et le bâtiment se poursuit par une petite halle, un peu à l'image pour ceux qui connaissent de la halle de Follainville-d'Edmont, en plus modeste et plus rurale, puisque on est sur une autre échelle. Voilà, donc une halle sur laquelle on pourra faire un certain nombre d'événements, de concerts, de rencontres.
D'accord, donc un beau projet là aussi. Et au printemps, il est également prévu l'ouverture d'une épicerie à part. alors c'est important de signaler parce qu'auparavant, cette épicerie était accolée à un bar-restaurant et là, elle va être pleinement dans ses locaux, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors l'histoire est longue, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais...
Il nous reste cinq minutes, on va peut-être pas passer
voilà.
tout.
Pour simplifier, on a eu des périodes difficiles, on a eu du commerce, on a eu des dépôts de bilan, il y a eu des difficultés. Comme je vous le disais, le restaurant de Saint-Martin-la-Garenne avait fermé. On a une personne qui a réouvert un restaurant, et de qualité d'ailleurs, sur la commune au mois de juin dernier. Donc le bar-restaurant est réouvert à Saint-Martin, et aujourd'hui, on se dirige vers l'ouverture d'une nouvelle épicerie. Donc, pareil, je ne vous donnerai pas de délai, mais on parle bien du printemps. Voilà, ça aussi, c'est un service à la population. On a parlé précédemment des aînés, et je pense que notre rôle, c'est vraiment d'apporter un service aux personnes qui vivent dans le village. Et là, l'épicerie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Et justement, comment est-ce que vous faites, et de quel levier disposez-vous pour amener de nouveaux services dans le village, attirer des investisseurs? On l'a vu avec la Houseboat tout à l'heure, mais peut-être d'autres investisseurs. Comment est-ce qu'on s'y prend?
Alors, nous avons la chance d'avoir un petit peu de patrimoine et donc les murs du restaurant de Saint-Martin sont des murs municipaux. Les murs de l'épicerie sont aussi municipaux. C'était une bibliothèque à l'origine et qui était plutôt bien placée puisque à côté de la mairie, face à l'église et sur la route départementale 147. Donc, on se dit que c'était intéressant d'y mettre un commerce puisque on a pas mal de passages. Donc voilà. Nos leviers, c'est la mise à disposition des murs, peut-être un peu d'aide aussi à l'installation, mais là-dessus, je ne peux pas encore vous en parler puisque c'est des discussions qui ont lieu actuellement en interne.
Et ben, je crois que ça sera l'occasion de faire un reportage justement là-dessus quand ce dossier aura un peu plus avancé. Alors décidément, des dossiers, il y en a beaucoup dans vos cartons et ils voient le jour, notamment le projet de construction d'une salle des fêtes. Ça, c'est attendu aussi par la population?
Ça, c'est très attendu par la population parce que on avait une salle polyvalente qui, au fil des années, est devenue une salle des fêtes. Et d'ailleurs, c'est deux termes sur lesquels il faut bien prendre le temps de s'arrêter parce que souvent on a tendance à tout confondre et tout mélanger. Cette salle polyvalente, par la force des choses, est devenue une salle des fêtes, sauf qu'elle est située entre des habitations et que ça pose des problèmes pour le voisinage.
Oui.
Alors, à la fois, les gens vivent dans un village et ils ont envie d'y être tranquilles, et à la fois, on a besoin parfois de se retrouver en famille, entre amis, autour d'événements de la vie, et une fois de plus, on reparle de lien social, mais c'est assez essentiel de pouvoir se retrouver, que ce soit en famille, entre amis, etc., et d'avoir un lieu à louer. Alors, il ne s'agit pas de faire une grande salle des fêtes qui attirerait beaucoup de monde et de grosses fêtes, mais il faut rester modeste, mais que les gens puissent avoir la possibilité de louer un endroit pour se retrouver, pour leurs événements familiaux, et ça, oui, ça paraît très important en termes de liens. Et je crois que je parle beaucoup de liens sociaux ce matin, mais je pense que c'est vraiment la grande leçon de cette période de crise sanitaire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué.
On le sent et on le voit et on l'entend. Ce projet de salle communale, de salle des fêtes, à quel horizon vous l'envisagez, pour quel, pendant la mandature?
Alors, nous avons laissé passer le projet actuel là, qui devrait donc être terminé au printemps. Le projet actuel dont on parlait tout à l'heure, donc la halle, etc., ça c'était le projet du mandat précédent. Sauf que entre quelques lenteurs administratives plus la Covid, on a mis un peu de temps, mais c'est quelque chose qu'initialement c'était le gros projet du mandat précédent. Le gros projet de ce mandat-ci, donc 2020-2026, c'est la salle des fêtes. Donc dès que nous aurons inauguré les locaux annexes, nous lançons dans ce travail sur la salle des fêtes. On a déjà probablement identifié un endroit, parce que la difficulté, c'est de trouver un endroit qui effectivement soit loin des habitations, puisque c'est pour ça aussi qu'on le fait, un endroit que le PLUI nous permette de construire, et enfin qu'on ait quand même les réseaux. Parce que donc ça veut dire qu'il faut un projet qui soit loin des habitations, sur lequel vous avez quand même de l'eau et de l'électricité, parce que s'il faut la faire venir, vous avez vite fait de doubler le coût de votre projet. Donc voilà, faut trouver il y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il faut trouver l'endroit idéal pour le faire. Donc déjà, ça c'est un travail. Après, il y a toutes les consultations, appels d'offres, etc. Bon, je pense décemment, je ne sais pas si les gens s'en rendent bien compte.
Ceux qui ont fait construire se rendent compte déjà des délais de construction, oui, d'instruction des dossiers, etc.
Oui, ouais. Si on peut comparer à une maison individuelle. Voilà. Non, je pense là très honnêtement que si vous arrivez à faire sortir de terre ce projet en 2 ans, c'est très bien, et c'est qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise.
On va rester dans la fête, et le comité des fêtes ici de la commune a prévu pas mal d'animations dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ?
Tout à fait. Alors, je voudrais pas parler en leur nom. Effectivement, je salue le comité des fêtes de Saint-Martin-la-Garenne, qui est un comité des fêtes très actif, qui jusqu'à présent faisait une dizaine d'événements par an. Du bal trap au loto, en passant par le repas champêtre.
Le trail aussi.
Le trail, qui est une nouveauté de cette année, je crois. L'année dernière, ils avaient fait un escape game. Enfin voilà, donc en plus des animations qui se renouvellent, on était jusqu'à présent à 10 événements par an. La période Covid, naturellement, a empêché un certain nombre de ces événements. L'année qui vient, comme je vous le disais, on voit au coup par coup, donc c'est très compliqué pour eux. Et je pense que les 2 prochains événements, on a un loto à venir, ainsi que le bal trap. Voilà, je crois que on a le loto, le bal trap et le trail dont vous parliez à venir pour le printemps. Et je profite de votre antenne, puisque j'étais la semaine dernière à l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes, qui a besoin de bénévoles, qui a besoin de mains, parce qu'ils en ont, mais comme toute structure, des fois il y a des gens qui se sont engagés pendant 10 ou 20 ans, et puis qui souhaitent passer à autre chose, ou qui vieillissent, comme nous tous. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à assurer ce rôle bénévole à leur côté, et c'est vrai qu'ils jouent un rôle essentiel dans la commune.
Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Champagne, de nous avoir reçus ce matin dans votre mairie de Saint-Martin-la-Garenne. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Robin, notre réalisateur qui travaille en coulisses, qu'on n'entend jamais, mais qui est toujours présent tous les vendredis matins. Et vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Excellente journée à toutes et à tous.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.